Ce qui est important, c'est que les enfants, et a fortiori les enfants des milieux défavorisés, bénéficient pleinement des moyens que
vous
l'État met.
Il y a beaucoup de détournements de l'allocation de rentrée scolaire, ouais. Ou c'est marginal?
On sait bien que, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Donc bien sûr que, qu'on peut regarder ça.
Et on va donc continuer à le regarder, hein, ce sujet de l'allocation de rentrée scolaire, autant qu'il le faudra, d'autant que cette semaine, c'est Emmanuel Macron qui est allé dans le sens de Jean-Michel Blanquer. Avant tout, il n'y a absolument aucun fait, aucune étude qui permette cette affirmation, et encore moins d'explosion de vente d'écrans plats en août ou en septembre. En revanche, ce qui reste, c'est bien cette question, cette suspicion sur les dépenses publiques, qui n'est pas anodine à 8 mois de la présidentielle. Si l'argent dédié à la solidarité est mal dépensé, alors bon, il n'y a que deux solutions, hein. Plus contrôlé ou moins donné. Heureusement, ça fait longtemps que les sociologues et les économistes étudient, eux, précisément cette question. Les pauvres sont-ils filous ou alors juste complètement nuls pour gérer leur budget? Je vous fais 2 recommandations de lecture ce matin. D'abord, Où va l'argent des pauvres? L'ouvrage de Denis Colombi. Il décrit la gestion au cordeau des familles, les enveloppes de liquide et les stocks, mais seulement quand il y a des promos. Et puis ensuite, ça tombe bien, la France s'enorgueillit d'avoir une prix Nobel qui se consacre au sujet de la pauvreté, Esther Duflo. Il est temps d'ouvrir son livre de 2012, Repenser la pauvreté, et de comprendre pourquoi les pauvres s'achètent aussi, oui, des écrans plats, qui sont un loisir accessible, qui ouvrent une fenêtre sur le monde, qui permettent d'attraper l'information, de s'insérer dans la société et ses débats, et puis même, pour les enfants, de regarder la télévision apprenante quand les écoles sont fermées.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Magéco et c'est l'émission de rentrée. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et très heureux de vous retrouver. La ministre du Travail est notre invitée ce matin, Elisabeth Borne, dans ce studio. Ça sera dans moins de 20 minutes vers 9h30. Au programme, nous vous parlerons des pénuries de main-d'œuvre, les difficultés de recrutement. Les entreprises, elles, ne parlent plus que de cela. On est loin de l'explosion du chômage que tout le monde redoutait il y a un an. Mais à culpa également, les économistes se sont-ils tant trompés? Vous entendrez le reportage de Marion Ferrer. Vos questions de vie au boulot, ça sera avec Sandrine Foulon qui a les réponses. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Tir de questions sur
le protocole sanitaire, le pass sanitaire, l'obligation vaccinale. Je vous raconte toutes les nouvelles règles du jeu.
Et on vous retrouve juste avant le journal de 10h. Mais tout de suite, on démarre avec les débatteurs. Laurent Bigorne et Christian Chavagneux. Christian, éditorialiste à Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
L'ADN d'Alter Echo, pour savoir d'où vous parlez, tiens, c'est l'émission de rentrée.
C'est l'avenir du travail.
L'ADN, le positionnement.
L'ADN,
qui vous êtes?
Qui on est? On est un journal pédagogique d'économie critique.
Et Laurent Bigorne, Laurent, directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et l'ADN de l'Institut Montaigne, qui êtes-vous?
Un think tank avec comme objectif la compétitivité et la cohésion sociale.
Liée aux entreprises?
Financé par les entreprises.
Financé par les entreprises. Non mais c'est bien de le dire, d'où on parle.
Financé par nos abonnés.
Et vous, financé par vos abonnés, chacun parle à sa paroisse, et c'est ça la confrontation d'idées. Et donc ce matin, confrontation d'idées, débat d'opinion. La question de la semaine, c'est doit-on et peut-on augmenter les salaires?
C'est le bon moment pour demander une augmentation à son patron?
Comment augmenter les salaires? Cette thématique du pouvoir d'achat et des salaires va s'inviter en force dans la campagne présidentielle.
Ce message que Bruno Le Maire fait passer depuis une semaine, augmenter les salaires.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
Il faut se reposer la question de la meilleure rémunération. Ça peut passer par les salaires, ça peut passer par les primes, ça peut passer par l'intéressement, la participation. Mais faisons chacun notre part du chemin, tout simplement pour que la France reste rassemblé et que lorsque le Français qui se lève le matin, qui travaille, qui a un niveau de rémunération faible, va à son boulot, il se dise la croissance que M. Le Maire annonce à 6%, elle est aussi pour moi.
J'ai entendu, ministre de l'économie, dire qu'il faut augmenter les salaires. Et là où il y a des problèmes de salaire, c'est où?
Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF.
C'est dans les métiers qui ont beaucoup souffert pendant la crise, par exemple la restauration. Mais il faut le dire tout de suite, si on augmente les salaires dans la restauration, il faudra pouvoir augmenter les prix, le menu, parce qu'à un moment, un coût salarial plus élevé, ça se traduit forcément par un prix de vente plus élevé. Si vous demandez à l'entreprise d'augmenter brusquement le salaire, elle va pas pouvoir le supporter en termes d'exploitation.
Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France.
La première dignité, c'est de pouvoir vivre de son travail.
Candidate à l'élection présidentielle.
Et pour cela, il faut que le travail paye. Donnons-nous pour objectif que le salaire net perçu par la majorité des Français progresse d'au moins 10%. C'est possible. Je ne me résous pas à ce que le pouvoir d'achat des Français soit inférieur à celui de nos voisins allemands.
Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste.
Les salaires sont désespérément bas.
Candidat à l'élection présidentielle.
C'est un vrai problème. Pour nous, c'est au minimum 1800 euros bruts. Mais c'est aussi remettre en place une échelle des salaires qui permettrait à tous les salaires de progresser en même temps.
Le gouvernement, il a mal agi.
François Omeril.
Il a consacré énormément d'argent public à supprimer, à exonérer les cotisations et les contributions sur les très bas salaires.
Président de la CFE-CGC.
Donc ces politiques-là, elles ont ouvert très très grand ce qu'on appelle la trappe à bas salaire. Et donc aujourd'hui, les employeurs ils viennent vous dire « Mais moi, je ne peux pas augmenter les salaires parce qu'en fait, on a tellement, tellement défiscalisé et désocialisé les bas salaires bah, qu'aujourd'hui, ça devient très très difficile et c'est très coûteux de sortir les gens de cette trappe-là. »
Laurent Bigorgne, je me tourne vers vous. Pourquoi la question des salaires surgit-elle maintenant et pourquoi est-ce que tout le monde en braie ?
Il peut y avoir des raisons économiques, il peut y avoir des raisons politiques. On va peut-être regarder un instant les raisons économiques. C'est vrai qu'il y a une poussée inflationniste, une augmentation des prix dans les pays de l'OCDE. Elle est supérieure à 4%, très tirée par les États-Unis, avec deux remarques. L'hypothèse centrale sur laquelle on est à peu près tous d'accord, c'est de dire que c'est un phénomène transitoire qui est dû à la reprise des économies, à la montée des prix de l'énergie qui est liée à cette reprise, et puis à des pénuries sur les chaînes de production. On n'a pas assez produit pendant l'épisode du Covid. Et d'ailleurs, la zone euro est relativement épargnée et la France est en dessous des 2% qui sont l'objectif à partir duquel la BCE doit théoriquement intervenir. Mmh. Il y a des raisons politiques. D'abord, la question du pouvoir d'achat, c'est un sujet récurrent au mois de septembre, au moment de la rentrée, c'est normal. Il y a, je pense, aussi une volonté du gouvernement, mais de la classe politique de façon générale, de donner de la perspective aux Français après 18 mois de Covid. Certains ont même pu dire, comme Dominique Seux, qu'il s'agissait de passer le mistigris de l'État aux entreprises. Je pense qu'il y a aussi des classes moyennes qui sont assez secouées dans différents pays, on voit. Et puis, il y a chez toute une partie des candidats de droite qui font leur rentrée dans la perspective de la primaire. Le souvenir qu'en 2007, Sarkozy a gagné sur travailler plus pour gagner plus. Et donc, c'est sans doute plus un mot d'ordre politique qu'économique dans cette rentrée.
Christian Chevalier.
Ouais, pas tout à fait d'accord. Alors, je suis d'accord sur l'inflation. Là, il faut surtout pas regarder l'inflation de cette année par rapport à l'année dernière. L'inflation sur un an, il y a un an, rappelez-vous, on était en une économie à l'arrêt. Total ou partiel. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est l'inflation d'un mois par rapport au mois précédent. Et là, si vous regardez depuis mai, on est là sur un train de hausse des prix qui décélère. Mmh. L'inflation est de plus en plus faible. Donc, c'est pas ça qui va justifier les hausses de salaire. Il y a des considérations sociales. Rappelez-vous quand même, il y a que quelques mois qu'on nous disait qu'il y a des emplois essentiels qui étaient mal payés. Dans la santé, chez les enseignants. On a du mal à recruter des enseignants aujourd'hui dans l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, la distribution. Donc, il y a des évolutions sociétales. Il faut plus payer ces gens-là. Et il y a des évolutions économiques. Quand le ministre des Finances nous dit on a 6% de croissance cette année, l'économie repart fort, l'année prochaine, on va avoir une super croissance. Bah, les gens se disent qui va en profiter? C'est normal. Est-ce que nous, salariés, on ne peut pas en profiter un peu? Et là, on s'aperçoit que sur le premier semestre 2021, le taux de marge des entreprises, c'est-à-dire la part de la richesse qu'elles produisent, qu'elles vont pouvoir conserver pour elles, il n'a jamais été aussi élevé depuis qu'on a les statistiques, depuis 1949. Donc là, et c'est en hausse continue depuis 2013. Donc là, on se dit non seulement la pandémie a bénéficié aux entreprises, mais ça fait quand même 6-7 ans que les entreprises se portent de mieux en mieux. Est-ce que ce n'est pas le moment de redistribuer un petit peu ?
Laurent, sur cette question des entreprises qui auraient vraiment les épaules assez larges pour assumer une augmentation de salaire, parce que le taux de marge, globalement, hein, Christian, a augmenté.
Mais c'est ce qui est prévu. Je veux dire par là que cette année, on a effectivement des budgets dans la masse salariale qui sont moins importants que les années précédentes s'agissant des augmentations de salaire, tout simplement parce qu'on est dans une année de reprise, donc il y a une anticipation prudente. Mais toutes les études qu'on peut avoir d'un certain nombre de grands cabinets qui travaillent sur ces sujets avec les entreprises montrent que dès 2022, dès 2023, on est sur des reprises d'augmentation de salaire qui sont conformes à la moyenne d'avant-crise. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième élément qui me paraît important, le pouvoir d'achat, à la différence des autres crises, celle de 2008, la crise des dettes souveraines de 2012, le pouvoir d'achat des Français, certes, a stagné, mais il n'a pas régressé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des mesures gouvernementales considérables qui ont été prises, avec des disparités. Hein, c'est vrai que les retraités ont été préservés, c'est vrai que les salariés les plus aisés ont été préservés, il y a des catégories qui ont souffert, les gens au chômage partiel, ceux qui n'ont pas pu faire d'heures supplémentaires, les contrats précaires, CDD, intérim, étudiants, les nouveaux arrivants sur le marché du travail, les autres entrepreneurs. Donc il y a des réponses ciblées à apporter, mais je rappelle que par ailleurs, les Français ont épargné durant la période plus qu'à aucun autre moment de notre histoire économique. Hein, on sait que c'est 111 milliards l'année dernière. Au total, à la sortie de la crise, on sera peut-être à 160 milliards d'épargne. Donc, à mon sens, la question du rattrapage de consommation ou du pouvoir d'achat se lie bien plus dans des mesures ciblées là où c'est nécessaire et quand on va évidemment porter un regard sur ce qui a été mis de côté pendant la crise en 2020-21.
Donc, alors, on sait que cette question d'épargne, elle est majoritairement dans les caisses des plus riches et que pour le bas de l'échelle, cette épargne, elle n'a pas été là. On a même eu des augmentations d'endettement pour les bas de l'échelle. La question, c'est une question de dynamique de justice sociale. En 2022, en 2023, les hausses salariales, je ne sais pas ce que ce sera. Par contre, Deloitte nous dit que pour cette année 2021, les hausses de salaire, ça va être plus 0,6%. Or, en même temps,
Il nous dit 1,8%. C'est-à-dire trois fois plus l'année prochaine.
Ok. En face de quoi, au deuxième trimestre, Janus Anderson nous dit les profits plus 26,6%. Alors bien sûr, il y a un effet de rattrapage.
Il y a un effet de rattrapage par rapport à l'année dernière.
Pour les dividendes, hein, pour les dividendes. Il y a un effet de rattrapage par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, on n'a pas pu verser de dividendes. Bravo Janus Anderson qui nous dit, et si j'enlève cette phase de rattrapage, c'est quoi la dynamique de versement des dividendes pour cette année? Plus 11,2%. Plus 0,6% des salaires, plus 11,2% de dividendes. Si on vraiment, les entreprises sont dans une bonne situation, à un moment donné, il va falloir peut-être un petit peu mieux partager.
Là, vous mettez le doigt sur la question, Christian, du partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail.
Oui.
En fait, est-ce qu'il y a une déformation particulière à la France ou quelque chose dont Christian s'émeut est-ce qu'on donne trop aux actionnaires? Je vais poser simplement la question.
Ouais, sur les dividendes, on peut avoir la question. Les entreprises françaises, elles ont, me disait Christian, largement coupé, très drastiquement coupé dans leur versement de dividendes en 2020. La moitié. Les banques n'ont rien versé, elles se sont abstenues de tout versement à la demande de la Banque Centrale Européenne. Et on estime dans les études de projection, effectivement, des versements de dividendes, qu'on ne retrouvera pas les niveaux de 2019, peut-être avant 2023.
Les niveaux exceptionnels de 2019.
En même temps, si l'économie va bien, il est normal que les actionnaires, comme les salariés d'ailleurs, soient associés. Je rappelle par ailleurs que sur cette question de du partage de la valeur créée, on est un des pays en Europe plutôt assez exemplaire sur l'épargne salariale, sur l'intéressement, la participation. Il y a 9 millions de salariés qui sont couverts par un dispositif de partage de la valeur. C'est des dispositifs qui existent depuis chez nous depuis 1959. La loi Pacte les a renforcés en 2019. Donc, j'ai pas le sentiment que la France soit particulièrement en retard. Si, il y a un sujet sur lequel on a fait à peu près n'importe quoi, c'est la fiscalité, effectivement, pour les détenteurs d'actions, y compris les salariés, où on a matraqué les gens et ensuite on s'étonne qu'il y ait assez peu de petits porteurs en France.
Bon, j'ai l'impression que on va arrêter quand même là-dessus, parce que ce qui est intéressant quand même, c'est comment on fait. J'ai l'impression que vous avez un accord entre vous sur il va falloir cibler des hausses de salaire, peut-être pour les bas salaires. C'est la question des leviers, Christian. Est-ce que, vous voyez bien dans les programmes, est-ce qu'il faut augmenter le SMIC? Est-ce qu'il faut abaisser les charges sur les bas salaires? Et à chaque fois, il y a le contre-argument. C'est si vous baissez les charges, vous allez coincer les gens dans des trappes. C'est si vous augmentez les salaires, vous allez nuire à la compétitivité. Comment est-ce qu'on en sort?
Le plus efficace, à mon sens, c'est une hausse généralisée des minima sociaux et des bas salaires. Parce que, on va pas remonter à John Maynard Keynes, économiste britannique, on sait bien que les salaires des uns, c'est la demande pour les autres entreprises. Donc oui, moi, dans mon entreprise, si j'augmente les salaires et si je suis tout seul, ça, je vais avoir des problèmes de compétitivité par rapport à mes concurrents. Par contre, si tout le monde le fait, à ce moment-là, ça veut dire que toutes les entreprises vont voir la demande adressée à ces entreprises augmenter, donc ils vont faire plus de chiffre d'affaires, plus de profits, etc. Donc ça, la question, je pense, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait. Moi, oui, augmenter le SMIC, je pense que il y a plusieurs raisons qui poussent à ça. D'abord, parce que le SMIC, c'est d'abord donner aux gens un salaire décent. Si on met à jour l'étude d'il y a quelques années du Crédoc et de l'IRES pour dire qu'est-ce que c'est un salaire décent en France, c'est 1600 net euros par mois. Le SMIC, c'est à 1231.
Net,
donc on est loin, net. Qui est au SMIC? Les jeunes. Or, le Covid les a durement touchés. Et quand vous demandez le Covid, c'est la faute à qui? Eh bien, les jeunes répondent majoritairement, c'est le gouvernement et les institutions. Donc, c'est antidémocratique. Est-ce que ça entraîne des hausses de salaire? On dit, vous augmentez le SMIC.
Après, ça entraîne tous les salaires.
Eh bien non, la DARES nous a dit, ça empêche les baisses de minimum. Parce que vous avez beaucoup de branches dans lesquelles on essaie de se mettre en dessous
dessous du SMIC. Et donc, heureusement qu'il y a ça. Pour aller en dessous, il y a une faible diffusion dans l'échelle des salaires. Et enfin, je vous donne un dernier argument, allez-y, parce que c'est vous qui l'avez mis en avant, Alexandra. Il y a une étude de la Banque de France qui nous dit que la France n'a pas de problème de compétitivité coût. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de problème de compétitivité coût. Voilà.
Alors, compétitivité, puisque c'est l'ADN de l'Institut Montaigne, on y va.
On a une cohésion sociale, Alexandra. On a déjà fait beaucoup sur les bas salaires durant ce quinquennat. Je rappelle que on a fait la bascule des cotisations sociales vers la CSG au début du quinquennat. On a fait à deux reprises la revalorisation des primes d'activité, dont une revalorisation très substantielle fin 2018 pour sortir du mouvement des Gilets jaunes. On a supprimé la taxe d'habitation pour l'ensemble des Français. On a supprimé les charges sur les heures supplémentaires. Quand on regarde en termes de pouvoir d'achat, le gouvernement a fait les calculs, hein. On estime qu'en gros, sur le SMIC, effectivement, on est à 70 euros par mois en plus pour un salarié qui est au SMIC depuis le début du quinquennat. Ça n'est pas rien. Et j'ajoute qu'on est allé au-delà du SMIC sur les diminutions de cotisations sociales. Il y a eu l'augmentation également à travers une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui avait été décrétée en 2018 et qui a été reconduite depuis. Et quand Christian nous disait tout à l'heure, il faut faire un effort sur les personnels de santé, sur l'éducation, il vient d'y avoir le Ségur de la santé, 12 milliards, le Grenelle de l'éducation pour plusieurs centaines de millions. Il y a des annonces en juillet pour 1 200 000 agents catégorie C de la fonction publique avec des hausses de rémunération entre 40 et 100 euros mensuels net. Et puis à partir de 2022, la prise en charge forfaitaire par les employeurs publics des complémentaires santé pour les fonctionnaires.
Donc tout va bien.
On n'a pas rien fait.
Il me faut le mot de la fin là, Laurent. Alors, que fait-on ?
Alors, on laisse aux entreprises la possibilité de faire en fonction de leur situation économique. Si elles n'augmentent pas leurs salariés, ils partiront, puisqu'on est en situation très dynamique et qu'il doit profiter aux employeurs. Et si l'État estime qu'il a à faire, eh bien qu'il fasse.
Vous l'augmentez les salaires ? 32 heures payées 35.
Ok, c'est la proposition de Christian Chavagneux.
Ne reprends pas.
que Laurent ne reprend pas. En tout cas, vous savez que la question du SMIC a augmenté, elle se pose au-delà des frontières, elle se pose par exemple aux États-Unis, elle se pose en Espagne, et puis ce matin, moi je vous emmène en Allemagne.
Es wird zu wenig verdient. Viele Bürgerinnen und Bürger des Landes arbeiten schwer und verdienen viel zu wenig. Ich setze mich ein für 12 Euro Mindestlohn.
De nombreux citoyens de ce pays travaillent dur et gagnent beaucoup trop peu. Je défends un salaire minimum de 12 euros, 12 euros. C'est le candidat du SPD, Olaf Scholz, qu'on vient d'entendre dans un meeting de campagne. Le scrutin en Allemagne, ça sera le 26 septembre. Et Olaf Scholz pourrait bien être le successeur d'Angela Merkel. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes le correspondant de France Inter, Outre-Rhin, tout le monde vous salue. Chez nos voisins allemands, le débat est donc vif aussi sur les salaires.
Oui Alexandra, dans cette campagne électorale, deux partis proposent d'augmenter le salaire minimum de 9,60 euros à 12 euros de l'heure. Il s'agit du SPD, on vient de l'entendre, le social-démocrate Olaf Scholz, le favori, et puis la candidate des Verts, Annalena Baerbock. 2,40 de plus, 2,40 de plus, ça fait bondir quand même pas mal d'entrepreneurs ou d'artisans qui préviennent qu'à ce tarif-là, ils ne pourront plus payer leurs employés. D'autres, comme certains économistes, appellent à un peu plus de prudence, oui à une hausse, mais moins brutale, moins rapide. Surtout, disent-ils, en temps de crise. Hier matin, une étude de la fondation Beucler, proche des syndicats, parvenait à cette conclusion qui fait débat chez les économistes. Augmenter le salaire minimum en trois étapes d'ici 2022, autant dire rapidement, aiderait l'économie allemande. Ça ferait du bien à 8 à 10 millions de personnes. Ça ferait du bien aussi aux finances publiques qui récoltent plus d'impôts et de cotisations sociales. À ce tarif-là, toujours selon cette étude, le salarié occuperait un poste où on lui en demanderait un peu plus. On a donc besoin de lui plus longtemps. On l'emploie donc à temps plein, voire à temps partiel, mais un peu moins en mini-job. Ce qui, écoutez bien, augmenterait la production économique, le produit intérieur brut, d'environ 1,5%, soit 50 milliards d'euros de plus par an.
Ludovic, au-delà de la campagne électorale chez vous, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent que le sujet reprenne comme ça de l'ampleur ?
Bien, ouais, si vous regardez la grève en cours chez les cheminots, jusqu'à lundi soir, c'est la troisième grève de l'été. C'est même du jamais vu à ce point à la Deutsche Bahn, l'équivalent de la SNCF. Ils demandent, ces cheminots, une prime liée au coronavirus, 600 euros, et une hausse de salaire de plus de 3%. Plus globalement, il y a une inquiétude sur le pouvoir d'achat. La crise sanitaire a créé des tensions au niveau de la production, les prix augmentent. L'inflation, depuis le début de l'année, grimpe en flèche de 0 à 2% en avril, 3,8% 1% en juillet cet été, un petit peu plus encore en août. Il faut remonter 28 ans en arrière pour retrouver un pareil niveau. Hausse des loyers, de l'électricité, de la nourriture, qui ronge d'abord les tout petits porte-monnaie des retraités pauvres, des travailleurs pauvres, dont le taux est très élevé ici en Allemagne, parmi les plus élevés d'Europe.
Ludovic Piétenu avec nous, en direct depuis Berlin. Et la ministre du Travail vient de nous rejoindre. Elle s'est assise dans le studio 521. Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Elisabeth Borne.
Merci, à plus.
Vous,
ciao, ciao.
Elisabeth Borne, on a entendu le correspondant de Berlin. Elisabeth Borne, que dit la ministre du Travail? Oui, en France, il faut augmenter les salaires?
Alors, ce que je dis, c'est d'abord que le gouvernement a beaucoup agi depuis le début du quinquennat pour le pouvoir d'achat. Ça a été bien expliqué par Laurent Bigorgne. On a agi à la fois au niveau SMIC, mais plus généralement pour les classes moyennes, par exemple, avec la suppression de la taxe d'habitation. Et pour un salarié au SMIC, toutes ces mesures, c'est l'équivalent d'un 13e ou d'un 14e mois.
La question, c'est « et maintenant ?»
Je voudrais quand même aussi rappeler qu'on est un des pays qui a le mieux protégé le pouvoir d'achat dans la crise, que ce soit avec l'activité partielle, mais aussi avec la prolongation des droits des demandeurs d'emploi, ou encore avec l'aide exceptionnelle pour les travailleurs précaires. Ça a concerné ces deux dispositifs, demandeurs d'emploi et travailleurs précaires, près d'1,5 million de personnes.
Ça,
mais c'est vrai
exploré.
Que le sujet, effectivement, du pouvoir d'achat arrive dans le débat. Je pense notamment du fait qu'on a vu que les marges des entreprises ont très fortement progressé au premier et au deuxième trimestre. Donc ça pose effectivement la question du partage de la valeur, vous l'avez dit, entre l'entreprise et les salariés. Et évidemment, il faut de la justice dans ce domaine. Je voudrais dire que dès le mois de mars, on a prolongé, reconduit la prime de pouvoir d'achat, ce qu'on appelle la prime Macron, qui permet à une entreprise de verser jusqu'à 2000 euros défiscalisés à ses salariés. C'est quelque chose qui est très facile. Donc moi, j'invite toutes les entreprises dont les marges le permettent à se saisir de cet outil. Mais je pense aussi qu'on a des sujets sectoriels. La crise et la reprise mettent en lumière des secteurs dans lesquels les conditions de travail, les rémunérations ne sont pas à la hauteur des contraintes des métiers.
Les cafés,
ça a été les travailleurs de la deuxième ligne. Mmh. Et dans la reprise, c'est un certain nombre de secteurs qui ont du mal à recruter. Notamment, vous l'avez dit, les hôtels, cafés, restaurants. Vous savez, moi, ça fait des mois qu'on travaille avec certaines branches, celles des travailleurs de la deuxième ligne, c'est la propreté, la sécurité, ça peut être le transport routier, qui sont prêtes à des efforts significatifs. Donc, il faut que ça se concrétise maintenant, rapidement.
Alors,
des secteurs qui doivent se remettre en question. Et c'est le cas des hôtels, cafés, restaurants. C'est des secteurs qu'on a massivement aidés dans la crise et qui aujourd'hui nous disent on n'arrive pas à recruter. Ben, il faut qu'ils se posent la question pourquoi ils n'arrivent pas à recruter. Il y a des conditions de travail qui sont difficiles.
On va en parler. Mais Elisabeth Borne,
et donc moi je les invite vraiment aussi à se saisir de ce sujet.
Mais vous les invitez à se saisir, il n'y a rien de contraignant. Ce matin, le leader de la CFDT, Laurent Berger, était l'invité de la matinale de France Inter et il dit mais puisqu'on continue de maintenir des aides, c'est-à-dire c'est pour certains le quoi qu'il en coûte ne sera pas encore fini. Et c'est le cas pour les hôtels, cafés, restaurants. Il faut contraindre à ouvrir des négociations dans les branches. Bref, il faut des conditions désormais à la poursuite du quoi qu'il en coûte pour certains. Est-ce que vous y êtes prête?
Mais c'est bien ce qu'on fait. Vous savez, moi, si on a mis autour de la table, je vous disais, les branches de la propreté, de la sécurité, parce qu'on leur demande de faire des efforts, de faire des avancées pour les salariés. Et elles vont le faire. Maintenant, il faut que ça se concrétise rapidement. Et je peux vous dire que, avec les responsables des hôtels, cafés, restaurants, je leur ai dit à plusieurs reprises, maintenant, j'attends qu'ils mettent des propositions sur la table.
Et si ça ne se passe pas?
Vous l'avez dit, c'est des secteurs qu'on aide, qu'on continue à aider. Et je pense qu'ils entendent le message.
Elisabeth Borne, vous avez évoqué cette question, en effet, connexe à celle des salaires, les difficultés de recrutement, c'est le sujet de la rentrée. On n'est pas du tout dans l'explosion du chômage, on est dans l'augmentation des offres d'emploi non pourvues. Les économistes se sont donc trompés dans leurs prévisions, mais jusqu'où ont-ils eu tout faux? Je vous propose d'écouter ensemble le reportage de Marion Ferrer. On sort du studio, direction la Normandie et le village de Tressandrenouche.
Vous désirez prendre un café?
Je veux bien, c'est gentil. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Le site est magnifique.
Merci.
Je vous suis.
Nous sommes au Moulin Fourré, pas très loin de Caen, cadre bucolique et terrasse bordée par la rivière. Ici, 40 couverts sont dressés à chaque service et l'hôtel a affiché complet tout l'été. Les clients sont bel et bien de retour. Mais Cédric Auger, le propriétaire, lui, a eu du mal à trouver le personnel pour les accueillir.
Ça a été assez compliqué après le confinement pour pouvoir recruter du personnel. Je pensais que les gens avaient envie de retravailler, avaient envie de reprendre la vie normale, quoi, mais je crois qu'ils ont redécouvert autre chose et ils en profitent différemment.
Pourtant, c'était des postes que vous proposiez en CDI ?
Tous les postes étaient en CDI. Sur Pôle emploi, on a contacté une trentaine de CV qui étaient en ligne. On a eu deux réponses et personne n'est venu en entretien.
Et il y avait un poste clé, justement, qui vous manquait vraiment. C'était la seconde de cuisine, c'est bien
ça ? Oui, voilà. Bah, c'était la seconde pour pouvoir me remplacer. Vu qu'en saison, on est ouvert 7 jours sur 7, faut pouvoir prendre un peu de repos aussi. Donc, c'était pas évident.
Je m'appelle Azéine Gaudisson. Le confinement a fait que on a vu une vie autre que le travail de la restauration. Donc, on a pu avoir des week-ends, on a pu être en famille, profiter de la famille, avoir plus de vie, de temps pour nous, quoi. Suite au deuxième confinement, j'ai trouvé dans la collectivité, dans un lycée exactement. Alors, les horaires sont différentes, hein. C'est 6h, 14h30 et après on a toutes nos soirées et tout, quoi. Mais du coup, je suis revenue au Moulin et du coup le chef, il a tenté, il a réussi d'ailleurs à me convaincre de venir ici, quoi.
On a essayé d'aménager un peu le temps de travail, lui proposant un week-end ou deux week-ends par mois, quelques soirées, et puis on a réussi à la convaincre.
Pour vous, il est envisageable d'augmenter même les salaires ?
On peut faire un petit effort sur certaines personnes, mais on ne peut pas non plus élargir. On a dû s'arranger et limiter un peu, faire le prêt garanti État pour pouvoir s'en sortir. On a un peu plus de 60 000 euros.
Sur l'hôtel, vous avez aussi des employés, et là, il vous manque encore du monde.
Sur l'hôtel, il nous manque encore une femme de chambre, en temps partiel. En basse saison, vu qu'on n'en a pas encore fait avec le Covid l'année dernière, que l'hôtel est tout récent, on n'a pas vraiment de recul, donc on voulait prendre un CDD, mais bon, on va peut-être se diriger vers un CDI pour pouvoir avoir justement plus d'offres. Tout le monde cherche, tous les collègues ont du mal à trouver, et c'est compliqué pour tout le monde, donc il faut être le plus attractif.
Il faut être le plus attractif, dit Cédric, le patron. On estime que 250 000 offres d'emploi, au moins tous secteurs confondus, ne trouvent pas preneur aujourd'hui. Et certains disent jusqu'à 400 000. Curieuse situation que celle de la France, un pays à fort taux de chômage, qui connaît les difficultés de recrutement des pays au plein emploi. Allez, notre reporter Marion Ferrer aurait bien posé son sac au Moulin, au bord de la rivière. Mais pour trouver des explications, c'est dans le bureau de l'économiste Gilbert Sette qu'elle s'est rendue. Sa spécialité, c'est le marché de l'emploi.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup, c'est gentil de m'accueillir si tôt.
Voilà, je l'installe ici.
Oui, très bien.
Ou là, comme vous voulez.
Bon, très bien.
Pour faire simple, il y a deux types de difficultés de recrutement. D'une part, il y a des postes pour lesquels l'offre de travail est insuffisante. Il y a un problème de formation, des postes assez pointus, d'ingénieurs, de main-d'œuvre très qualifiés. C'est qualitativement important. Numériquement, c'est assez faible. La masse des difficultés de recrutement concerne surtout des emplois peu qualifiés dans des secteurs comme les hôtels, cafés, restaurants, les services à la personne ou encore la construction. Et là, la difficulté, c'est celle de l'attractivité de ces postes de travail. Ça peut être les conditions de travail, ça peut être aussi les perspectives à moyen et long terme. Quand on dit, par exemple, à un jeune qui peut prendre un poste non qualifié, eh bien, prends-le et on ne parle pas de ton avenir dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Il y a quelque chose de peu motivant dans une telle proposition. Il faut savoir comment offrir des perspectives de formation, des perspectives de mobilité professionnelle. Et puis, bien sûr, simultanément, bien que ce ne soit pas le seul facteur, il y a quand même un facteur financier. Eh bien, ça peut être la distance entre les revenus d'inactivité et les revenus du travail. Il faut réfléchir à ça. Et puis, je crois que vraiment la priorité des priorités dans un pays comme la France, où la mobilité sociale est très faible comparée à d'autres pays, c'est surtout de savoir comment on fait pour donner à tous ceux qu'ils veulent la possibilité de bénéficier d'une mobilité professionnelle et d'une mobilité sociale.
Former, s'adapter sont devenus les maîtres mots des patrons pour embaucher. C'est le cas à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Catherine Garniou est à la tête d'une PME dans le bâtiment, la fenêtrière. Elle a dû revoir sa méthode de recrutement.
pour nous, c'est quand même énorme. Hein. On est passé de 7 à 11. Nous, on recrute donc des aides-menuisiers, des menuisiers, et on n'avait pas de personnel qualifié. Nous avons de très bonnes relations avec les missions locales, donc la mission locale du bord de Marne. Et donc, n'arrivant pas à recruter des profils qualifiés, je me suis vite retournée vers eux. Mais il faut aussi être prêt, ce sont des profils qui sont jeunes et c'est des profils qu'il faut accompagner.
Et investir dans la formation.
Investir dans la formation, dans un premier temps, c'est une formation interne, mais c'est un investissement aussi. Et surtout, revoir nos critères habituels d'embauche. Et nous sommes partis plus sur le regard du savoir-être et également des compétences extérieures qui pouvaient nous être utiles. Et je pense que la responsabilité sociétale des entreprises, hein, ce qu'on appelle la RSE, est vraiment un des piliers aujourd'hui dans notre recrutement et dans notre valorisation d'entreprise. Il faut revaloriser les salaires, il faut également accompagner le salarié dans sa progression de compétences de façon à justement séduire ceux qui arrivent, leur donner des repères et bien entendu les former, mais également continuer à accompagner ceux qui sont déjà en place parce qu'en ce moment, il y a une fuite très importante aussi, des salariés qui partent vers d'autres univers et beaucoup en région parisienne sont quand même séduits par la province.
On est loin de la situation prévue par les économistes qui redoutaient plus de 700 000 licenciements. Le tsunami n'a pas eu lieu, mais que va-t-il se passer avec la fin du quoi qu'il en coûte ? François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Le plus dur, effectivement, maintenant est devant nous parce que ces mesures de soutien, pour un grand nombre d'entre elles, ont été aussi de l'endettement supplémentaire. On a fait nos projections. Hein. L'économie, lorsque tout va bien, il y a un peu plus de 50 000 défaillances d'entreprises par an. C'était le cas en 2019. Là, nous n'avons eu qu'à peine 34 000 défaillances d'entreprises en 2020 et en 2021, il y aura une sinistralité qui sera très basse. On a acheté du temps, donc lorsqu'on va commencer à débrancher ces mesures de soutien, ces aides, eh bien sur 12 mois glissants, vous aurez la sinistralité des entreprises qui vont augmenter, plus certainement une sorte de rattrapage des entreprises qui auraient dû, c'est terrible ce que je vais vous dire, parce qu'il y a des femmes et des hommes hein, derrière tout cela, derrière ces chiffres, mais qui auraient dû arrêter leur activité parce qu'elles n'étaient pas assez solides pour pouvoir continuer, qui risquent effectivement de mettre pied à terre rapidement. Vous savez, si au total, sur 12 mois glissants, on ne dépasse pas les 70 000 défaillances d'entreprises, considérons, même si ça sera toujours beaucoup trop, que ça sera un chiffre tout à fait acceptable par rapport au coût de massue que nous avons connu depuis bientôt plus d'un an, quoi, 18 mois.
On pense notamment à l'hôtellerie-restauration. Dans ce secteur, jusqu'à 10% des entreprises pourraient ne pas réussir à rembourser leurs prêts garantis par l'État et à payer leurs arriérés de cotisations à l'URSSAF. Des chiffres avancés par Bercy. Et dans ce cas de figure, difficile de ne pas envisager une hausse du chômage. Mathieu Plane, directeur adjoint de l'OFCE.
Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on a effectivement un niveau de taux de chômage qui est revenu à celui d'avant crise. Mais malgré tout, on a encore 600 000 personnes en chômage partiel. Hein, donc, c'est quand même pas rien. 600 000, ça représente à peu près 2 points de taux de chômage. Donc, il va falloir que ces personnes-là soient réabsorbées dans l'emploi. Hein. Donc, en équivalent temps plein, c'est un peu moins parce que ça fait 200 000. Il y a quand même beaucoup de chômage partiel. Donc, ce n'est pas des gens qui étaient forcément en temps plein. Mais il va falloir comme que l'économie soit en capacité de réabsorber ces personnes. Et puis, on a eu aussi une augmentation de ce qu'on appelle du halo du chômage. Des personnes qui sont sorties de l'activité, qui souhaitent travailler, mais qui ne correspondent plus aux critères de chômeurs comme disponibilité immédiate ou de recherche active d'emploi. Et ces personnes-là aussi pourraient revenir sur le marché du travail et donc gonfler les statistiques du chômage. Donc on ne peut pas dire qu'on est revenu parfaitement à la situation d'avant-crise. Et donc c'est ce grand paradoxe, c'est que d'un côté, on a des difficultés de recrutement, mais on a encore un vivier important de personnes qui ne travaillent pas et qui souhaitent travailler et qu'il va falloir réintégrer sur le marché du travail. Ça veut dire aussi la nécessité d'avoir une forme de mobilité, hein, parce qu'il y a des secteurs qui recrutent beaucoup, d'autres au contraire où il n'y a absolument pas de tension. J'allais dire, c'est plutôt sain et plutôt une bonne chose, même s'il va falloir trouver des réponses, ça veut dire que c'est une économie qui fonctionne.
Chômage, les économistes se sont-ils tant trompés ? C'était le reportage de Marion Ferrer.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et l'invité dont on n'arrête pas l'écho ce matin, c'est la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Je vous ai vu réagir à cette dernière plage du reportage. Quand on a encore 600 000 personnes en activité partielle, Elisabeth Borne, est-ce qu'on peut vraiment dire que pour le chômage, ça va mieux et qu'on est revenu à la situation d'avant-crise, avec l'incertitude du quoi qu'il en coûte qui se profile?
Alors, on a eu une très forte baisse des salariés en activité partielle au mois de juillet. On est passé d'1,4 million au mois de juin à 600 000 effectivement au mois de juillet, mais c'est 200 000, c'est l'équivalent de 200 000 salariés à temps plein. Et puis c'est maintenant très concentré dans des secteurs dont on sait qu'ils vont mettre plus de temps pour redémarrer et où on veut qu'ils puissent garder les salariés et les compétences comme on l'a fait pour l'ensemble de l'économie. Donc moi je pense que dans les prochains mois, cette activité partielle va évidemment continuer encore à baisser. Et globalement, c'est vrai que notre économie est repartie très vite et très fort, qu'on a battu tous les records sur les embauches et qu'on a vu qu'on a retrouvé le niveau d'emploi d'avant-crise.
Donc vous êtes optimiste et vous dites non, il n'y a pas d'incertitude sur la fin du quoi qu'il en coûte, les éventuelles défaillances supérieures. Donc, vous dites au syndicat, je vais mettre en place la réforme de l'assurance chômage, alors que vous dites, non, la photo n'est pas stable, il faudra attendre avant de la mettre en place au 1er octobre.
Enfin, moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, notre économie est repartie, qu'on est évidemment très attentif à la façon dont on sort des aides massives qu'on avait mises en place. Avec Bruno Le Maire, on fait évoluer ces aides, que ce soit celle du ministère de l'économie ou l'activité partielle dans mon ministère, pour accompagner cette sortie de crise pour les entreprises qui en ont encore besoin.
Mais la photo n'est pas stable, vous comprenez vous entendez cet argument?
Moi, je pense qu'on a des perspectives très positives pour les prochains mois. Et effectivement, je vous confirme qu'on a bien l'intention de mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage. C'est pas de l'obstination, c'est qu'on pense que c'est une bonne réforme. Elle est largement rentrée en vigueur au 1er juillet, par exemple avec le bonus-malus. On va ressaisir le Conseil d'État, puisque vous savez qu'il avait suspendu le nouveau mode de calcul de l'allocation chômage pour qu'il rentre en vigueur au 1er octobre. Ensuite, on a des clauses de retour à meilleure fortune qu'on avait prévues. Et ces clauses de retour à meilleure fortune, elles devraient jouer d'ici la fin de l'année.
Vous allez déposer un décret prochainement.
Je vous confirme qu'on va déposer un décret, et je vous dis, parce que moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, notre mode de calcul de l'allocation chômage et de façon générale notre système d'allocation chômage a des effets pervers, encourage la précarité, crée des injustices par exemple entre le salarié qui travaille
un
jour sur deux et celui qui travaille à mi-temps.
Mais vous allez corriger les excès, néanmoins il va y avoir, ce sont les calculs de l'UNEDIC, avec cette réforme, 1 million de personnes qui vont avoir lésées par les nouvelles règles.
Enfin moi je pense que c'est une présentation biaisée, vous savez, parce que quand on met en lumière l'allocation mensuelle, il faut aussi tenir compte de la durée d'indemnisation. Et ceux qui pourraient avoir une allocation ou qui auront une allocation mensuelle plus faible seront indemnisés plus longtemps. Donc moi, je pense que c'est effectivement le bon moment. On voit bien que l'économie est repartie. Il y a des difficultés de recrutement dans un certain nombre de secteurs. Je ne dis pas du tout que ces secteurs ne doivent pas s'interroger. Et ils doivent au contraire le faire. Réfléchir à leurs conditions de travail, à l'organisation du travail, aux rémunérations. Mais en même temps, on a un marché du travail très dynamique et c'est important au moment où les entreprises recrutent qu'on ait effectivement mis en œuvre cette réforme de l'assurance chômage.
Allez, Elisabeth Borne, je reviens sur ces deux jours de rencontre avec les partenaires sociaux à Matignon. Cette semaine, vous avez aussi abordé la question de la réforme des retraites. Il en a été question. Les partenaires sociaux ont tous refusé la concertation dont tu as parlé, évoquée par Emmanuel Macron le 12 juillet. Est-ce qu'il n'est pas temps, par exemple ce matin, de dire clairement que cette réforme est désormais enterrée, Elisabeth Borne?
Alors peut-être, donc le président de la République nous avait demandé de voir les organisations patronales et syndicales sur ce sujet des retraites. C'est ce que nous avons fait avec le Premier ministre, comme vous l'avez dit dans les rencontres qu'on a eues cette semaine. On leur a rappelé que le gouvernement considère que cette réforme est indispensable parce que les problèmes qui se posaient avant la crise continuent à se poser. Sur le fond, on voit qu'il y a des positions contrastées, ça n'est pas une surprise parmi les organisations patronales et syndicales. Mais effectivement, en termes de méthode, la plupart nous ont dit qu'ils ne souhaitent pas poursuivre les concertations sur ce sujet de façon générale. Mais en revanche, on a notamment identifié la question du maintien dans l'emploi des seniors, qui est je pense, relativement consensuel. Vous savez qu'on est un des pays qui se singularise par le faible taux d'emploi.
Donc il va y avoir des discussions qui vont s'engager. Mais est-ce que la réforme, pardon de reposer ma question, mais est-ce qu'on peut le dire, ça y est, c'est enterré, celle qui a été adoptée en première lecture il y a un an et demi, jusqu'au scrutin, c'est enterré.
Vous savez, le président de la République avait dit, rappelé que cette réforme nous semble indispensable, et en même temps, il a dit qu'il ne lancerait pas cette réforme tant que la crise sanitaire ne sera pas derrière nous. Donc c'est à lui qu'il appartient de dire comment il souhaite agir dans les prochains mois.
Allez, encore une question, cette fois sur le pass sanitaire pour les lieux qui reçoivent du public. Ça se passe clairement mal dans les centres commerciaux. Il y a une chute de la clientèle et du chiffre d'affaires. Les professionnels disent que la règle est floue. La justice, elle est en train de rendre des décisions contradictoires. Le MEDEF demande l'arrêt de cette mesure. Que répondez-vous ?
Alors d'abord, peut-être dire que ça se passe bien partout ailleurs. Et effectivement, c'est plus difficile pour les centres commerciaux. En même temps, quand on se rappelle les taux d'incidence qu'on avait au mois d'août, il était important d'avoir des règles sanitaires renforcées dans les très grands centres commerciaux, dans les départements où il y avait un taux d'incidence élevé. On voit que la situation sanitaire s'améliore. Si ça se confirme, on pourra assouplir les règles.
Donc prochainement, si la situation continue de s'améliorer, on pourrait lever cette obligation du pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m².
On a mis en place ce pass parce qu'il y avait des départements dans lesquels il y avait des taux d'incidence plus élevés. Si les taux d'incidence continuent à baisser, on pourra assouplir les règles.
Mais donc pour l'instant, non.
Aujourd'hui, non, mais je vous dis, on verra dans les prochains jours en fonction de la confirmation de la bonne évolution de la situation sanitaire.
Elisabeth Borne, la ministre du Travail, est dans le Mag'Écho. Ne partez pas, Madame la ministre. Voici les questions des auditeurs. Avec Sandrine Foulon. Sandrine, on reste sur cette actualité sociale chargée. Et on commence avec le nouveau protocole sanitaire et une question d'Alice sur le télétravail. Mon employeur peut-il m'obliger à revenir 5 jours sur 5 au bureau à présent ?
Absolument, Alice. Il n'y a plus de jour minimum de télétravail imposé et l'employeur reste le maître des horloges. Alors, depuis 2017, il doit motiver son refus du télétravail. Il risque d'avoir du mal à le faire si la demande sociale est forte et si vous avez démontré que vous pouviez parfaitement travailler depuis la maison. Mais dans la mesure où il considère que le travail sur place est mieux pour l'organisation, pour la cohésion, c'est lui qui a le dernier mot.
On continue avec une question de Nathan sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Sandrine, les restaurateurs, les responsables de lieux publics, les médecins libéraux doivent contrôler que leurs salariés sont bien dans les clous. Mais Nathan vous demande qui les contrôle, eux ?
Eh bien, pour les employeurs du privé, ce ne sont pas les inspecteurs du travail. Ils ne sont pas habilités à faire ce contrôle. Ce sont les forces de l'ordre. En cas d'infraction, ces responsables encourent des sanctions administratives comme la fermeture de leur établissement. Les médecins ou les dentistes qui sont soumis à l'obligation vaccinale, tout comme leurs salariés en contact avec les patients, sont contrôlés par les agences régionales de santé qui disposent d'inspecteurs. Les récalcitrants reçoivent d'abord des courriers de l'ARS qui leur signalent que, sauf erreur, leur schéma vaccinal n'est pas entamé ou n'est pas complet.
Et que se passe-t-il, Sandrine, si un salarié refuse de se conformer à ses obligations ? En cas de licenciement, faut-il payer des indemnités liées à l'ancienneté ? C'est la question de Patrick.
Oui, alors le licenciement automatique pour ce type de refus a été supprimé dans la loi, mais avant d'en arriver à cette extrémité, Patrick, vous devez, au bout de 3 jours, organiser un entretien avec le salarié, lui proposer éventuellement une solution de reclassement. Si ce n'est pas possible, son contrat de travail reste suspendu. La personne ne touchera ni salaire ni allocation chômage. Certains employeurs joueront sans doute la montre, espérant que les salariés démissionnent. D'autres entameront une procédure de licenciement. Au bout d'un certain temps, mais la loi ne précise pas ce certain temps, il faudra trouver un motif, comme la désorganisation du service. Et dans ce cas, oui, vous devrez payer des indemnités de départ liées à l'ancienneté du salarié, qui pourra ensuite toucher des allocations chômage. Supprimer le licenciement en l'autorisant tout de même en bout de course crée un flou juridique qui pourrait bien se terminer au prud'homme. Toute la question est de savoir si les salariés anti-vax et anti-pass seront nombreux ou pas.
Elisabeth Borne, la ministre du Travail,
l'objectif, c'est que ça se passe bien. Et moi, je suis vraiment convaincue, et on le voit avec la mise en place du pass depuis le début de la semaine, que ça va se passer effectivement bien dans la très grande majorité des cas, hein. Notamment les secteurs qui sont soumis à un pass sanitaire depuis plusieurs semaines et pour lesquels les salariés sont désormais soumis à un pass. Les employeurs se sont fortement mobilisés pour accompagner, faciliter la vaccination de leurs salariés. Vous savez qu'on a aujourd'hui 80% des adultes qui sont totalement vaccinés, et donc ça permet aux salariés de produire un pass si on est totalement vacciné. Donc voilà, je pense
donc ça se passe bien. Il n'y a pas de conflictualité sur le terrain.
Ça se passe bien depuis le début de la semaine. Mmh. Moi, j'ai pas d'alerte, et le point qu'on a pu faire avec les DRH confirme effectivement que ça se passe bien, et on va évidemment être attentif à ce que ça continue.
Et sur cette question du flou juridique évoqué par Sandrine Foulon sur le licenciement?
Alors, on avait voulu encadrer le licenciement, notamment dans le texte qui avait été initialement présenté au Parlement. Les sénateurs ont souhaité écarter cette disposition. On verra en fonction de l'évolution dans les prochains mois. Si par exemple on est amené à prolonger le pass sanitaire, alors il faudra qu'on revienne vers le Parlement pour bien encadrer les choses et s'assurer que ça se fait effectivement dans des conditions sécurisées pour l'employeur comme pour le salarié.
Elisabeth Borne, la ministre du Travail, était l'invitée du Mag'Éco ce matin. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci.
Voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison avec Valentin Pérez qui prépare cette émission avec moi. Céline Hilla à la réalisation et à la technique ce matin. Antoine Cruchon et Mathias Alléon.
On n'arrête pas l'écho avec la Banque Postale, engagée aux côtés des acteurs de l'économie locale.